La première,
20h-21h le week-end,
en quête de sens.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Jacques Nizin à la technique, Vinciane Colson au micro. Et si on parlait enseignement ce soir? La semaine passée, les grandes lignes du pacte pour un enseignement d'excellence ont été présentées et c'est une réforme en profondeur du système éducatif qui s'annonce. Autre actualité enseignement cette semaine, les résultats du test PISA qui évalue le niveau des élèves de 15 ans. Et si on se fie à ces résultats pas très bons, on va dire, en Fédération Wallonie-Bruxelles, il est effectivement temps de réformer l'école et d'améliorer la formation des élèves. Quelles sont les pistes concrètes proposées dans le pacte d'excellence pour améliorer l'école, la rendre plus émancipatrice et pour réduire les inégalités? On va en discuter ce soir avec les deux coprésidents du groupe central du pacte pour un enseignement d'excellence. Alors tout d'abord, Laurence Wehr. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous co-présidez donc ce groupe pour le cabinet de la ministre de l'Éducation, Marie-Martine Schintz. Et à vos côtés, Frédéric Delcor. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes donc le deuxième co-président de ce groupe central et par ailleurs secrétaire général de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. La semaine passée, vous avez remis un avis de 300 pages qui propose donc de réformer l'école, un document qui est le fruit d'une concertation entre les différents acteurs du monde éducatif, donc les pouvoirs organisateurs, les syndicats, les associations de parents. Et vous insistez, ce que vous proposez, ce n'est pas une énième réforme, mais vraiment une évolution systémique de l'enseignement. Alors, qu'est-ce qu'on entend vraiment par cette évolution systémique?
C'est d'abord le constat que depuis des années et des années, on dit qu'il y a des choses qui fonctionnent plus dans notre système scolaire, qu'il y a beaucoup trop d'iniquité, que c'est d'ailleurs une des raisons de ces mauvais résultats au test PISA que vous évoquez, c'est que les écarts entre ceux qui réussissent bien et ceux qui réussissent pas bien, entre les écoles où les choses se passent bien et les écoles où les choses se passent moins bien, les écarts partout sont très importants. On est dans un système où on sépare tout le temps les bons, les mauvais, les formes d'intelligence, ceux qui ont des profils socio-psychologiques particuliers, ceux qui ont un indice socio-économique faible, qui viennent de milieux défavorisés par rapport aux autres. On est vraiment dans ce modèle de séparation qui produit de l'inéquité et des mauvais résultats. Et on le sait depuis très longtemps, et face à ça, il n'y a pas une solution miracle, sinon on l'aurait sans doute appliqué depuis très longtemps. Il y a à utiliser énormément de leviers en même temps, à agir sur beaucoup de réformes pour produire un résultat positif et à tenir sur la longueur aussi. Et donc, comme il n'y a pas de miracle, il faut s'inscrire dans une réforme qui effectivement doit être systémique, c'est-à-dire où on programme sur une période, encore une fois, qui doit être un peu longue, toute une série d'actions à mener qui sont interconnectées les unes aux autres, qui doivent être menées dans le bon ordre. On ne peut pas par ailleurs demander aux équipes sur le terrain, aux enseignants, aux directeurs d'absorber un nombre infini de réformes à la fois. Donc tout ça, ça doit être pensé vraiment de manière très structurée dans le temps. Et il faut effectivement, c'est la deuxième grande caractéristique de la méthode du pacte par rapport à ce qui s'est passé avant, outre ce caractère systémique, c'est le fait que ça a été co-construit avec les acteurs, puisque sans doute, comme la réussite ne se décrète pas, comme l'amélioration de notre système scolaire ne peut pas se décréter, il faut vraiment miser, mobiliser les compétences des acteurs de terrain, des enseignants, des équipes pédagogiques dans les écoles et trouver les meilleurs moyens de mobiliser tout le monde autour des mêmes objectifs. Et ça, c'est pour ça que cette dynamique de co-construction était pour nous fondamentale. Et que ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner, que le monde politique, finalement, ait accepté que une réforme qui est complètement cruciale, qui met en jeu une énorme partie du budget de la Fédération Wallonie-Bruxelles, soit construite finalement en dehors d'eux. Après, maintenant, ils vont se l'approprier, etc. Ouais. Mais jusqu'à présent, ça a été construit en dehors d'eux.
Parce que ça fait deux ans, effectivement, plus ou moins, qu'il y a des discussions qui se font entre les différents acteurs, c'est ça?
Oui, ça fait deux ans que de nombreux groupes de travail se sont réunis. Alors, c'est avec tous les acteurs de l'enseignement, les représentants des acteurs de l'enseignement, des syndicats, des fédérations de pouvoir organisateur et des parents, mais c'est aussi un travail qui s'est fait en collaboration avec le monde académique, le monde scientifique de la communauté française, puisque tous les groupes de travail qui ont été mis en place ont été énormément nourris par les travaux des chercheurs, des spécialistes du monde de l'éducation, mais dans les universités, les hautes écoles. Ça, c'est une caractéristique aussi assez importante du processus.
C'est ça. Et donc, on part vraiment des réalités de terrain, et donc c'est pour ça que On disait lors de la conférence de presse que c'est à la fois une réforme très très ambitieuse, mais en même temps très ancrée dans les réalités de terrain. Parce qu'on sait que les meilleures intentions du monde, à un moment donné, si elles ne prennent pas en compte ce que sont les réalités des classes, ce qu'un professeur, un enseignant, un instituteur peut ou pas assumer, absorber par rapport à ce qu'on lui demande quand il est face à sa classe et à la difficulté de ce travail, de devoir motiver, de devoir retenir l'attention d'enfants qui n'ont pas choisi d'être là et on doit essayer de susciter le plaisir d'apprendre, hein, c'est vraiment une des grandes ambitions. Et susciter le plaisir d'apprendre, c'est tout sauf évident, hein, avec un public qui, encore une fois, qui n'a pas choisi d'être là. Et donc c'est un boulot pas du tout évident. Le boulot des directions d'école n'est pas évident non plus. Le boulot de ces équipes, il faut vraiment avoir à l'esprit tout le temps les contraintes de ce que ça représente. Et ça, je dirais que la méthode de co-construction avec les acteurs, avec les représentants des enseignants, avec les représentants des pouvoirs organisateurs et des directions, avec les représentants des parents, ça a fait qu'au final on aboutit à quelque chose qui est très ambitieux mais en même temps très très réaliste par rapport à ce que sont ces réalités et comment est-ce qu'on peut mettre les choses en place pour que ça ait réellement un effet.
Alors je vous propose justement d'essayer d'aller un peu plus en profondeur dans ce que propose ce pacte. Alors vous êtes parti sur une réforme en 5 axes. Donc le premier, il va se concentrer sur les savoirs, les compétences et le plaisir d'apprendre dont on parlait juste avant. Deuxième axe, ciblé sur la gouvernance des écoles, pour résumer. Troisième axe, le parcours qualifiant, les synergies entre enseignement, formation et emploi. Quatrième axe, mixité sociale et école inclusive. Et cinquième axe, les pistes pour rendre l'école plus accessible, atteindre progressivement la gratuité, par exemple. Alors, on va revenir sur quelques points. Par exemple, le premier axe, je disais, c'est renforcer les savoirs, les compétences. Et ça passe notamment par l'allongement du tronc commun, avec cette idée aussi de ne plus séparer, vous disiez tout à l'heure, ne plus séparer toujours les élèves et allonger ce tronc commun. Un mot peut-être là-dessus, Laurence Souhaite ?
Oui, l'allongement, c'est surtout la conséquence du renforcement du tronc commun. C'est vraiment ça qu'il faut retenir. Alors, c'est en effet un renforcement du tronc commun autour de 7 domaines de compétences, dont certains ne sont pas très présents dans les cursus actuellement. On pense au numérique, à tout ce qui est créativité, à toute la dimension, l'apprentissage de la culture, des pratiques artistiques, etc. Donc là, il y a véritablement une ouverture à des domaines un peu différents et adaptés véritablement à la société du 21e siècle. Il y a aussi également le renforcement du tronc commun, ça veut dire aussi le renforcement des savoirs de base. Hein. Et donc là, on revient à la question des résultats PISA. Donc ça, c'était vraiment un des constats importants des choses à améliorer, qui font partie des choses à améliorer dans notre enseignement. Et donc le renforcement du tronc commun, c'est avant tout ça. Alors en effet, c'est un rallongement du tronc commun d'un an pour pouvoir intégrer tous ces domaines d'apprentissage dans le cursus des élèves. Donc on commence à partir de la première maternelle, ce qui est aussi
changement.
Ça s'allonge dans les deux sens.
Voilà,
en fait.
C'est-à-dire que la maternelle est renforcée aussi.
Oui, le maternelle est véritablement renforcé avec beaucoup de ressources supplémentaires, donc on espère un encadrement plus conséquent maternel, mais ce ne sont pas que des ressources, c'est aussi véritablement un renforcement de ce qui s'apprend, de ce qui se passe en maternelle. C'est aussi une insistance pour qu'on ait une fréquentation régulière de l'enseignement maternel, c'est très très important, et aussi plus de soutien à la réussite. On sait que tout ce qu'on fait, plus tôt on agit pour soutenir la réussite, pour identifier les problèmes d'apprentissage des élèves, tout ça c'est gagné, parce que sinon, toutes les différences qui se marquent à cet âge-là continuent de s'accroître tout au long de la vie. Donc ça, c'est vraiment une des avancées très importantes, un des points très importants des réformes qui sont proposées.
Et donc le tronc commun, il irait jusqu'en troisième secondaire.
Jusqu'à la fin, oui.
D'accord. Alors, deuxième axe de la réforme, elle s'axe plus sur les directions et les enseignants. Là, on va parler par exemple de soutien pour les directeurs, de formation continuée pour les enseignants. On voit que justement sur cette formation continuée, il y a des réactions ces derniers jours. Des enseignants se posent des questions. Concrètement, pourquoi avoir voulu cette formation continuée, cette formation renforcée pour les enseignants, et comment elle se mettra en place a priori ?
Je pense que globalement, dans cet axe gouvernance que vous évoquez, ce qu'on essaye de voir, c'est comment est-ce qu'on peut créer, encore une fois, les conditions d'une mobilisation des équipes éducatives autour des objectifs de l'école, et comment est-ce qu'on peut les mettre en capacité, en misant sur leurs compétences, en consacrant vraiment cette idée d'autonomie pédagogique, qu'on ne va pas aller dire aux enseignants, on ne va pas leur imposer la manière dont ils doivent donner les cours dans leur classe. Il y a vraiment une insistance dans ce cadre de nouvelle gouvernance sur la responsabilisation qui implique l'autonomie. Et pour mobiliser les directions, les équipes autour des objectifs de l'école, les objectifs de mixité, les objectifs de plus grande réussite, etc., il y a plusieurs leviers sur lesquels il faut agir, dont la formation, effectivement, par rapport à des savoirs qui évoluent, par rapport à des compétences qui évoluent, à des choses, à des manières d'appréhender des classes très très hétérogènes qui vont demander le développement aussi de compétences de la part des enseignants, une nouvelle façon d'envisager l'évaluation aussi dans le cadre du tronc commun, d'être dans des évaluations qui soient plus formatives, où on puisse vite détecter les difficultés, vite y remédier, plutôt que d'être dans des évaluations sanctionnantes, entre guillemets, à intervalles réguliers. Il y a vraiment cette dimension-là, pour notamment lutter contre le redoublement, on y reviendra sans doute tout à l'heure. Bref, donc beaucoup d'évolution du métier d'enseignant dans cette nouvelle gouvernance.
Aussi des enseignants qui, à la fin de carrière, par exemple, pourraient encadrer les autres, et donc un nouveau rôle.
Oui, c'est ça. Donc il y a vraiment... ça, encore une fois, on se dit comment est-ce qu'on peut mobiliser au mieux leurs compétences, comment on peut au mieux les motiver. Il y a aussi cette idée que la carrière de l'enseignant, c'est très long, sans évolution réelle, sauf si on veut changer de fonction pour devenir directeur, inspecteur, etc. Mais sinon, dans l'école, on est temporaire, puis on est nommé, et puis a priori, on poursuit cette même carrière jusqu'à la fin de sa carrière de travail, je dirais. Et donc, on a prévu une nouvelle étape en disant, on a besoin de fonctions collectives au sein de l'école, parce qu'il faut vraiment développer toute cette dynamique collective. On ne va pas imposer aux équipes éducatives la manière, on veut pas interdire le redoublement, on trouve ça complètement idiot, on ne veut pas imposer la manière de faire pour améliorer les résultats, mais on veut qu'il y ait une dynamique collective au sein des écoles pour que ensemble l'équipe éducative, les enseignants, le directeur construisent la meilleure façon d'atteindre les objectifs. Et donc pour ça, il y a des fonctions collectives qu'on va développer. Et ces fonctions collectives, on peut les confier à des enseignants plus expérimentés qui vont avoir moins d'heures face à leur classe, qui vont par exemple assister le directeur dans les grandes écoles par rapport à l'encadrement pédagogique des enseignants, qui vont être là comme référents pour les enseignants débutants. Donc on va créer cette dynamique collective comme ça. Par rapport à la formation continuée, juste pour répondre à votre question, et je termine là-dessus. Donc, on a dit l'importance de la formation. Il y a une réforme de la formation initiale qui est indispensable par rapport à la mise en œuvre du pacte. Il y a aussi le fait d'approfondir la formation continuée pour les raisons que j'ai dites. Et là, l'idée, c'est de dire, il faut que cette formation continuée, on y consacre plus de jours sans perturber les classes. Et donc, il faut trouver du temps, il faut inscrire ça dans le temps de travail des enseignants en dehors des moments où ils sont face à leur classe. Parce qu'il y a une chose très très importante à dire. J'ai lu dans un journal que les enseignants allaient devoir se former durant leur temps de loisir. Les enseignants vont pas devoir se former durant leur temps de loisir. Les enseignants vont devoir se former durant leur temps de travail. Mais le temps de travail des enseignants, on le caricature souvent. On dit les enseignants travaillent peu parce qu'ils ont 20 heures, passent à leur classe 22 heures dans le secondaire inférieur, 20 heures dans le secondaire supérieur, et on caricature l'enseignant à ses 20 heures de travail plus les 3 mois d'aide congé, etc. Et on oublie que le travail de l'enseignant, c'est bien plus que le face à la classe. Et ce qu'on dit dans le pacte, et ce qu'on a discuté avec les acteurs, et ce sur quoi ils se sont mis d'accord, c'est que la charge de l'enseignant, c'est le face à la classe, c'est la formation continuée, c'est son travail de préparation à la maison, c'est le service à l'école, les conseils de classe, les réunions de parents, etc. Et c'est les pratiques collaboratives qu'ils doivent avoir entre eux pour construire cette dynamique collective. Et donc, c'est pas pendant leurs heures de loisirs, c'est pendant leur temps de travail, en dehors du face à la classe. Et là, on dit, effectivement, comme c'est quelque chose qu'on leur demande en plus, que, et c'est la discussion qu'on a eue dans le... Il faut le rappeler, dans ce qui est un projet d'accord pour le moment avec les organisations et que les différents représentants de ces organisations sont en train de soumettre à leurs instances. Dans notre projet d'accord, on prévoit que les enseignants qui vont suivre des jours de formation continuée au-delà des 3 jours obligatoires aujourd'hui, on dit que ça pourra être de 4 à 6 en fonction des besoins, ils vont recevoir en quelque sorte une prime à la formation par rapport au nombre de jours de formation qui suivent en plus.
Ok, donc effectivement cette prime est prévue, donc il y a des compensations en tout cas prévues pour les enseignants. Alors, autre point que je voulais encore aborder, c'est la question du parcours qualifiant. On sait qu'aujourd'hui, les filières techniques professionnelles sont souvent des choix par défaut, que souvent elles regroupent aussi des élèves avec un indice socio-économique plus faible. Et ça fait des années finalement qu'on parle de revaloriser cette filière qualifiante. Qu'est-ce qu'il y a vraiment de neuf dans l'approche du pacte ? Qu'est-ce qui change par rapport à tout ce qu'on a déjà dit là-dessus ?
Je pense que ça, peut-être Laurence peut l'évoquer. Et ce qui change d'abord, c'est ce qui se passe pendant le tronc commun et qui va faire en sorte que quand on choisit le qualifiant, on sera dans une dynamique de choix
vraiment
plus positive.
Oui,
c'est une dynamique de choix plus positive qui est d'abord favorisée par le fait que le tronc commun il devient véritablement polytechnique. C'est-à-dire qu'on valorise beaucoup plus dès le début, en fait, les compétences, qu'elles soient manuelles, techniques, technologiques. On y associe aussi le numérique qui fait aujourd'hui partie des apprentissages techniques. Donc ça, c'est une première chose. De deux, le tronc commun devient beaucoup plus orientant. C'est-à-dire qu'il devient orientant tout au long du tronc commun. C'est-à-dire qu'on ne choisit plus des options qui sont de plus ou moins bonne réputation. Non, on est formés tous à la même chose et on apprend à découvrir différents apprentissages, différents même métiers à certains moments du parcours, de façon beaucoup plus généralisée. Et alors, au moment de l'orientation et du choix, le qualifiant est sur le même pied puisque tous les domaines d'apprentissage sont notés de la même façon, tous les parcours techniques ne sont pas considérés comme des parcours de second choix. Ça, c'est une première chose. Maintenant, il y a tout ce qui se passe aussi en termes de valorisation de l'enseignement qualifiant. Ça, c'est le troisième axe stratégique du pacte. Et là, il y a la volonté, vous l'avez expliqué, bon, il y a énormément aujourd'hui, il y a plusieurs filières avec beaucoup, beaucoup d'options, etc. On n'y voit pas toujours clair, ni les élèves, ni les parents. Et donc là, l'idée, c'est véritablement d'organiser un parcours de qualification qui soit un parcours où les choix soient clairs et qui soient beaucoup plus lisibles pour tout le monde. Ça, c'est un des grands points, je pense, de la réforme.
D'accord.
Et puis peut-être on peut aussi rajouter, ce que je pense très important, c'est dans ce parcours dont Laurence parle, l'idée, c'est de ne plus avoir des options, des cours qui ne soient pas réellement qualifiants. C'est vraiment de se dire, l'enseignement qualifiant, c'est de l'enseignement. Donc il faut, c'est pas juste la formation, enfin pas juste, c'est pas de la formation professionnelle. Donc
mais justement, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'être un peu trop axé sur objectif emploi, objectif répondre aux demandes des entreprises? Est-ce qu'il n'y a pas un peu ce risque-là?
Il y a vraiment les deux éléments. Je pense que ce qui est très important par rapport à cela, c'est de ne pas faire de fausses promesses aux familles, aux enfants et d'être conséquent par rapport à ce qu'on annonce en quelque sorte. Et donc c'est de l'enseignement et le groupe central, ceux qui ont rédigé ce projet d'accord insistent là-dessus, c'est vraiment de l'enseignement et donc les cours de formation générale dans la filière qualifiante, ce seront des vrais cours de formation générale. Ce sera pas bradé, donc ça existera, ça reste de l'enseignement. Mais en même temps, la promesse de la filière qualifiante, c'est de pouvoir mener un emploi. On clarifie vraiment ces deux filières. Il y a la filière qui mène à l'enseignement supérieur et la filière qui peut directement mener à un emploi, même si c'est dans un cadre d'enseignement. Et donc, les options qui seront organisées dans cette filière qualifiante, elles devront pouvoir réellement mener à l'emploi auquel elles sont censées mener. Les options qui existent aujourd'hui dans le qualifiant et qui ne mènent pas réellement à un emploi, on va les supprimer. On va peut-être les réorienter vers la filière de transition vers l'enseignement supérieur si elles ne mènent pas directement à un emploi. On va les remplacer par des filières ou par des options qui correspondent plus à des emplois d'aujourd'hui. Mais voilà, il y a vraiment cette logique de clarification par rapport à la promesse de l'enseignement qualifiant qui est de faire accéder les élèves réellement à un emploi.
Laurence Weertz, dans ce pacte, il y a effectivement aussi un axe sur le fait de faire vraiment une école plus inclusive, une école plus émancipatrice. Là-dedans, qu'est-ce que ça regroupe finalement? Parce qu'il y a beaucoup de choses, mais qu'est-ce que ça veut dire une école plus inclusive déjà?
Oui, une école plus inclusive, c'est celle qui répond à un des constats qu'on a évoqué au début de l'émission, qui est le fait qu'on est dans un modèle aujourd'hui en communauté française d'école où on sépare les enfants. On les sépare en fonction de leur niveau d'apprentissage, de leur réussite ou pas. On les sépare en fonction de leur profil psychosociaux. On les sépare en fonction de leur origine sociale. Et donc, l'école inclusive, c'est le modèle de l'école qui répond un peu à tous ces problèmes-là pour ne plus séparer les enfants. Alors, dans cet axe stratégique, il y a évidemment tout ce qui concerne la lutte contre le redoublement, la lutte contre le décrochage, un point très important.
Juste le redoublement, je rappelle juste, parce qu'effectivement, dans les tests, les résultats PISA de cette semaine, on a vu que le taux d'élèves de 15 ans qui avait déjà redoublé une fois en moyenne dans les pays de l'OCDE, c'est 12% en 2015, et en Belgique, on est à 46% en 2015.
Donc, oui, on est à 46% et on est les derniers parmi tous les pays de l'OCDE et aussi de l'Union européenne. On est vraiment le dernier. Donc on a le score le plus haut. C'est évidemment très 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 inquiétant. C'est inquiétant depuis très longtemps. Mais on voit, ça a été une priorité des politiques de l'éducation depuis très longtemps. Et voilà, on voit que les solutions ne sont pas simples. C'est pour ça que dans le cadre du pacte, on a une approche qui est, et là on revient sur le terme de systémique, c'est-à-dire qu'on se rend bien compte que le redoublement, lutter contre le redoublement, ça ne se fera pas par une interdiction. Ça, c'est une chose. Ça se fera par toute une série de politiques à mettre en place, de leviers très spécifiques qui s'adressent vraiment au redoublement. Et là, c'est ce qui est proposé ici, c'est-à-dire jouer beaucoup plus à partir des plans de pilotage, les écoles où on va leur demander d'établir dans chaque établissement une stratégie pour lutter contre l'échec et le redoublement. Mais c'est aussi toute une série des autres mesures qu'on va mettre en place. Et évidemment, lutter contre le redoublement, je l'ai dit, c'est commencer par favoriser la réussite dès la maternelle. C'est ce tronc commun renforcé où on va modifier toute la conception à la fois de l'évaluation, essayer de motiver, de donner le goût d'apprendre aux élèves. Donc tout ça, ça fait partie revaloriser donner une nouvelle image de l'enseignement qualifiant, etc. Tout ça, ça fait partie de ce qui va contribuer à permettre de lutter contre le redoublement, mais c'est aussi, comme je l'ai dit, des initiatives beaucoup plus ciblées. Alors au redoublement, évidemment, il faut associer évidemment la lutte contre le décrochage, parce que ce qu'on sait, c'est qu'il y a une corrélation très forte. Les décrocheurs sont souvent les personnes qui ont redoublé plusieurs fois. Et que ce qui est aussi symptomatique, c'est qu'on est également un des pays qui avons les taux de décrochage les plus importants. Donc les deux politiques sont intimement liées et sont très importantes. Par ailleurs, dans l'école inclusive, dans cette idée d'école inclusive, il y a aussi tout ce qui concerne le fait de véritablement permettre aux enfants qui ont des besoins spécifiques de rester dans l'enseignement ordinaire et donc de recibler l'enseignement spécialisé sur les élèves qui en ont véritablement besoin, parce qu'on constate également que on a une croissance en fait des enfants qui sont scolarisés dans l'enseignement spécialisé qui dénote quand même un certain problème. Donc il y a énormément d'attention qui est portée à cette question-là. Et puis, il y a tout ce qui concerne l'encadrement différencié, les écoles qui ont véritablement toute une série qui cumulent une série de problèmes qu'on appelle les écoles en écart de performance ou en difficulté. Donc, il y a aussi énormément d'initiatives qui sont prises à cet égard.
Alors, on voit qu'il y a quand même beaucoup de thèmes qui sont abordés dans le pacte, parce que là, on en a cité juste quelques-uns, mais il y a encore beaucoup d'autres choses qui sont présentes dans ce projet d'accord, comme vous l'avez dit. Mais au début de ce pacte, il y a 2 ans, il avait été annoncé qu'il n'y aurait pas de tabou, qu'on pourrait parler de tout. Il y a quand même un sujet qui n'a pas été abordé et un sujet qui tient particulièrement à cœur les laïcs, peut-être les auditeurs qui nous écoutent, c'est la question des réseaux. La ministre de l'Éducation, Marie-Martine Schinz, a même dit la semaine passée que finalement, les réseaux sortaient renforcés de ce pacte. Or, on sait que les réseaux ont tendance à favoriser et en tout cas à contribuer aux inégalités sociales. Alors, cette question des réseaux, comment est-ce qu'on peut concilier finalement le fait de réduire les inégalités sociales et garder quand même ce système de double réseau ?
Donc, je pense que la volonté de ceux qui ont mis en place le pacte d'excellence et puis maintenant des acteurs qui se sont mis d'accord et qui ont effectivement dépassé leurs tabous, et on pourrait en citer une série, entre syndicats, entre pouvoirs organisateurs, entre patrons, entre guillemets, syndicats, parents, etc., pour se mettre d'accord, c'est d'aboutir à une réforme qui soit à la fois très très ambitieuse, mais en même temps, comme je le disais, très ancrée dans la réalité et qui puisse produire des résultats. La question des réseaux, elle fait partie de notre culture. Les réseaux, c'est quoi ? C'est le produit du libre choix. En réalité, c'est ça. Qui dit suppression des réseaux dit supprimer le libre choix des parents par rapport à l'école dans laquelle scolarisaient leurs enfants. C'est quelque chose qui est extrêmement ancré dans la culture en Belgique francophone. Et donc, voilà, je pense que c'est pas juste une question de tabou des acteurs. Ça c'est une question de dynamique culturelle dans laquelle on vit. Et je pense par rapport à laquelle il y a aucune volonté majoritaire, mais certainement pas du côté de la population et des parents, pour remettre ça en cause. Et il y a évidemment moyen tout à fait d'aboutir à nos objectifs de limiter la séparation, la ségrégation, d'être dans une école beaucoup plus inclusive, mixte socialement, etc., avec des acteurs comme les réseaux. Quand on dit qu'on va renforcer les réseaux, on va les renforcer pas dans leur logique de concurrence par rapport à ce quasi-marché scolaire, on va les renforcer par rapport au fait que dans cette dynamique de responsabilisation des équipes éducatives, il faut qu'une série de soutiens puisse leur être apportée. Et là où on va renforcer effectivement les réseaux, c'est dans ce rôle de soutien aux équipes éducatives. Soutien pédagogique, soutien par rapport au développement du numérique, des conseillers technopédagogiques, enfin toute une série de fonctions qu'il faut mutualiser à un niveau supérieur à l'école, parce qu'il faut des expertises spécifiques, parce que il faut pouvoir concentrer un certain nombre de ressources. Donc c'est toutes des ressources qui vont venir en soutien et qui seront offertes par les réseaux dans cette logique d'autonomie pédagogique, de libre choix, etc. On a vraiment envie d'une réforme qui produise des effets sur le terrain et qui fasse avancer les choses, pas qui soit dans une dynamique d'affrontement idéologique qui n'aboutira à rien de concret. Et là, ce n'est même pas sur 15 ans, c'est sur peut-être 100 ans ou 150 ans.
Mais peut-être juste encore une dernière chose là-dessus, c'est que par exemple, Nico Hirt, membre fondateur de l'Appel pour une école démocratique, écrivait cette semaine dans Le Soir que pour lui, c'était un consensus mou, ce pacte. Peut-être juste une réaction là-dessus, Laurence Wirth ou
Oui, j'ai lu le propos de Nico Hirt et je suis d'abord très contente qu'il ait dit qu'il ait soutenu le pacte depuis le début. Ça, c'était vraiment quelque chose est très positif. Maintenant, il a une lecture qui évidemment, il a noté les points de compromis dans le pacte, et ça, c'est en effet très important de pouvoir les indiquer. Et de là à dire qu'il y a un consensus mou, c'est peut-être un compromis très très fort. Donc, je pense que il n'a pas tout à fait. Il a tenu le propos qu'il voulait bien tenir, quoi. Ouais.
Alors, on va juste parler. Il nous reste quelques minutes, donc on va vraiment parler de l'avenir maintenant, de ce qu'on va faire de ce pacte et de ce projet d'accord. Je vous propose d'écouter une petite interview de Marie-Martine Schins, donc ministre CDH de l'Éducation en Fédération Wallonie-Bruxelles. On l'a rencontrée il y a quelques jours et elle nous parle de la suite du processus et de la mise en œuvre du pacte.
Aujourd'hui, ils vont, eux, les syndicats, les pouvoirs organisateurs, les associations, retourner vers leur base, parce que cette consultation qui arrive, c'est aussi une étape importante. Et l'étape suivante, c'est bien sûr que le gouvernement et le Parlement puissent se saisir du document. Plus le consensus sera large, plus on pourra inscrire ces différentes idées dans la durée, au-delà des législatures. Et ça, c'est vraiment mon objectif, c'est qu'on puisse travailler majorité comme opposition, avec l'ensemble des acteurs de terrain, sur une base qui est solide. On a aujourd'hui une feuille de route qui me paraît très concrète et qui doit être encore soumise à consultation, les consultations des instances, mais aussi les consultations des enseignants à travers des ateliers pédagogiques.
Mais avec des réformes qui se sont prévues pour quand est-ce qu'on peut finalement concrètement voir les effets de ce pacte ?
Il y a des effets qui vont se voir, à mon avis, assez vite. Une des conditions préalables, c'est par exemple le soutien administratif au directeur pour mettre en place les futurs plans de pilotage. Donc ce type de mesure va arriver relativement vite. D'autres, comme le renforcement des maternelles autour desquelles il y a vraiment une unanimité, vont aussi arriver assez vite dans les écoles. Par contre, le tronc commun qui demande du temps de préparation pour construire les domaines d'apprentissage et faire sans doute un peu évoluer les référentiels par rapport à ce qu'ils sont aujourd'hui, ce ne sera pas pour tout de suite, mais on veut d'abord renforcer le tronc commun avec les savoirs de base et l'ouverture aux intelligences multiples, aux polytechniques, à l'artistique, avant d'en arriver à l'allongement. Ça va demander un phasage, et le phasage est prévu. Il y a également un phasage budgétaire qui est très clairement indiqué aussi dans le pacte, avec un équilibre qui se fait à terme, et bien sûr des investissements qui doivent se faire, notamment dans le maternel, de manière plus rapide.
Juste un dernier mot pour terminer, donc sur vraiment les prochaines étapes de ce projet, enfin prochaines étapes du pacte, quelles sont-elles peut-être au niveau du calendrier ?
Mais donc la première étape, c'est que les acteurs du groupe central qui ont négocié ce projet d'accord, qui est vraiment tout sauf un consensus mou, qui est juste la condition de mise en œuvre des réformes sur le terrain, parce qu'on peut avoir les positions les plus idéales et les plus radicales soi-même dans sa tête, ou l'écrire sur un papier, dans un journal, si c'est pas partagé par les acteurs du système scolaire, on n'a juste aucune chance d'avoir réellement un changement sur le terrain. Et nous, notre première préoccupation, c'est pas d'écrire des textes qui nous fassent plaisir à nous, mais c'est vraiment d'avoir cette traduction sur le terrain. Et donc là, la première chose par rapport à ça, c'est que les gens qui ont négocié, c'est des représentants d'organisations, et donc maintenant ils sont retournés vers leurs instances et ils discutent avec leurs instances. Ça va prendre un petit temps, parce que c'est c'est une réforme importante qu'ils doivent expliquer. Il va y avoir, comme ils ont franchi certains tabous, effectivement.
Oui, notamment au niveau des syndicats, on sait que ça va être, ça
les syndicats, comme les pouvoirs organisateurs, ils vont devoir expliquer les compromis qu'ils ont faits, les points d'équilibre auxquels ils ont abouti. C'est un long travail qui va prendre sans doute jusqu'à la mi-février, fin février. Mais le moment où réellement le gouvernement et le Parlement s'empareront de tout ça, c'est quand on aura un feu vert définitif, on l'espère, des acteurs du groupe central sur ce qu'ils ont négocié.
Ok, mais on suivra ça en tout cas attentivement. Et on peut en tout cas saluer aussi le travail effectivement de ce pacte et le travail collaboratif qui a été mené. Donc Laurence Weers, Frédéric Delcor, merci en tout cas à tous les deux de nous avoir éclairés sur ce pacte. Je rappelle que vous co-présidez ensemble le groupe central du pacte. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. On vous parlera dans Libre Ensemble d'humanisme et de pacifisme à l'occasion de la remise du prix Henri Lafontaine. Et en cette journée internationale des droits humains, n'oubliez pas d'allumer votre bougie Amnesty International. Belle soirée à tous.
En quête de sens sur la première.